Ne me dites pas c'est les inspecteurs, c'est pas vrai.
Justement, monsieur l'inspecteur général, je voudrais défendre mes collègues ici présents, car c'est vrai que c'est une obligation légale que d'afficher dans la classe les emplois du temps tels qu'ils sont affichés et tels que vous les avez critiqués, ce que je comprends fort bien. Et donc, à chaque fois que je vais dans une classe, effectivement, ma mission est de vérifier la conformité des documents obligatoires, puisque c'est un document obligatoire à afficher en classe. Mais les enseignants me précisent tout de suite. D'ailleurs, ils me disent à chaque fois, quand ils n'ont pas mis les domaines en mathématiques, « Mais monsieur, je ne peux pas dire que de 8h30 à 9h30, je vais faire de l'algèbre, je vais faire du raisonnement ou des problèmes. » Je dis « C'est très bien. » Mais c'est vrai que c'est une obligation légale. Et c'est vrai que, bon, on va dans les classes, hein, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup moins de rigidité que ce qui est affiché dans la classe. Voilà.
Si je peux me permettre,
après j'ai une question.
Je voudrais quand même rappeler une des vertus des programmes 2008, c'était que cette obligation légale était déjà limitée strictement au français et aux mathématiques. Puisque les programmes 2008 nous invitaient à globaliser tous les autres enseignements. Or, l'obligation légale est que vous fassiez effectivement au cours d'une année le nombre d'heures de français, de maths, d'histoire et de géographie. Mais ce nombre d'heures peut être fait autour d'un projet pédagogique qui fait que la semaine machin, on a un projet science qui va nous occuper deux après-midi, trois après-midi par semaine. Je dis volontairement après-midi. Ensuite, par rapport à l'emploi du temps, il s'est quand même passé un truc qui n'est pas totalement, qui n'est pas passé totalement inaperçu même dans l'opinion publique, c'est le changement des rythmes scolaires. Oui, il y a quand même un truc qui est arrivé. Alors, un truc qui vous a mobilisé, moi aussi, beaucoup de salive avec nos amis des collectivités territoriales. Mais l'idée de départ du ministre n'était quand même pas d'abord ça. L'idée de départ du ministre était d'organiser autrement le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire les 24 plus une heure. Ah oui, sur des matinées qui sont globalement un peu plus longues et sur des après-midi qui sont par moments redoutablement courtes. Or, c'est bien réfléchir, mais je me moque, hein, je pense qu'il faut un emploi du temps. Mais simplement, cet emploi du temps, il doit tenir suffisamment compte du projet pédagogique. Et vous savez très bien que quand vous introduisez quelque chose de nouveau, la soustraction, je ne sais plus, dans quelle classe, vous avez après ce temps d'introduction, un temps où vous allez faire travailler les élèves sur la soustraction introduite, et puis un autre moment où vous allez évaluer si les élèves maîtrisent cette soustraction. Or, ces temporalités, elles ne sont pas nécessairement toujours de 50 minutes. Ça peut être des temps de 30, des temps de... Et là, je veux dire, la rigidité que je critique, je la lis quand même aussi le mercredi matin. Une fois sur deux, je suis désolé de vous dire, je vois un mercredi matin qui ressemble à s'y méprendre au lundi matin, au mardi matin, mercredi matin, jeudi matin et vendredi matin. Et là, quand je fais de la comptabilité, du contrôle de conformité, parce que j'en fais comme vous, chers collègues, ne croyez pas, c'est normal, hein, je suis aussi payé pour ça, je m'aperçois que le temps consacré aux français et aux mathématiques a gonflé et que tout le reste est encore plus contraint qu'auparavant. Et c'est pour ça que je vous dis, ouvrez les fenêtres, donnez-vous un peu d'oxygène, mais pas à faire ce que vous avez envie de faire, mais à vraiment construire, plutôt qu'un emploi du temps annuel, des semaines. Et ce dont moi je rêve, c'est d'arriver dans une école où on me dit, voilà l'emploi du temps de cette semaine. Et où je suis capable de montrer à l'inspecteur et à moi les emplois du temps de toutes les semaines précédentes, mais qui peuvent être différents. Ce dont je sais, rêve quelques principaux de collège, c'est pouvoir faire ça facilement en fonction d'un projet pédagogique. Et autant dans les collèges, je vois le casse-tête des enseignements pratiques interdisciplinaires à caser dans un emploi du temps, parce que ça fait intervenir souvent plusieurs collègues, autant dans le premier degré, on peut très bien, beaucoup plus facilement faire ça. Donc, j'ai envie de dire, nous sommes dans un système qui pêche par sa rigidité, je vous le dis. Mais n'ajoutez pas de rigidité là où elle n'existe pas. Et c'est, je sais bien que c'est rassurant, à un moment donné, c'est rassurant de se dire, et c'est même rassurant pour les enfants de savoir que tous les lundis matins, de machin à machin, on fera ça. Mais je ne suis pas sûr que ça corresponde à la fois à un projet pédagogique et réellement à des besoins. Donc ouvrez la porte à ça. Et si je reprends l'exemple de ce qui nous réunit cet après-midi, vous allez mettre quoi à l'emploi du temps? L'heure ou tout le moment que vous passez dans toutes les disciplines à faire de l'EMC? Et ça, vous ne pouvez pas. Comme dans les collèges, on ne le fera pas. Et heureusement, il y aura, je ne sais même pas s'il y aura l'emploi du temps, la demi-heure qui incombe au prof d'histoire géo, ce sera globalisé sur le service du prof d'histoire géo, mais tout ce qui se passe derrière, à côté, n'est pas obligatoirement dans l'emploi du temps, mais est pour les élèves très important, utile. Monsieur l'inspecteur, vous aviez encore une question et après madame.
Oui, j'avais une question sur la prudence qu'il faudrait avoir dans l'évaluation de l'EMC. Et je voudrais que vous nous donniez des conseils par rapport à ça, parce que je vois souvent des évaluations sommatives et ça, j'ai du mal à l'accepter.
Oui. Là, vous avez tout à fait raison. Et c'est pas un hasard si j'ai évité cette question, hein, très, très clairement. Non, mais vous avez bien fait de me la poser. C'est un enseignement dont la finalité repose sur des compétences dont la majorité d'entre elles sont des compétences comportementales. Je veux dire, nous aurons réussi quand les élèves auront des comportements de respect de l'autre, des choses comme ça. Or, je ne suis pas en train de vous dire que ça ne s'évalue pas. J'ai envie de dire... Alors, il y a aussi des connaissances à évaluer, ça, j'en parle pas, vous savez faire beaucoup mieux que moi depuis la nuit des temps. Mais j'ai envie de dire, pensons un tout petit peu à la manière dont on évalue à l'école maternelle. Là, nous avons un exemple extraordinaire. C'est l'enseignant qui observe l'évolution d'un comportement d'élève et qu'il le note. Et ce n'est pas la tête du client. C'est dans des situations concrètes, dans un débat à visée philosophique, la petite Marie a pris la parole à un moment où elle l'a demandé et où collectivement on lui a donné. Alors que le petit Jean, alors il a parlé sans demander la parole, etc. Exemple de tout petit. Mais dans la vie quotidienne de la classe, essayez d'observer. Alors, j'ai dit l'école maternelle, je pourrais dire aussi les collègues d'EPS qui ont une sacrée pratique de cette forme d'évaluation qui n'est absolument pas sommative, qui ne repose pas sur un dispositif ponctuel, mais qui est lié à l'observation régulière, permanente des élèves. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Malheureusement, pas qu'en EMC. C'est aussi vrai de beaucoup d'autres enseignements qui, quand je pense à tout ce qu'on fait autour du développement durable, autour de l'écologie, la finalité de ces enseignements est certainement en partie de connaissances scientifiques, mais la finalité est aussi de comportements responsables dans une société. Or ça, pour être caricatural, ce n'est pas une interrogation écrite qui nous donnera quelques éléments là-dessus. Et ce que je vous dis n'est pas non plus revenir en collège à l'ancienne note de vie scolaire. Non, c'est véritablement une observation réfléchie, raisonnée des compétences comportementales que les élèves ont acquis ou qui évoluent chez les élèves. Ce qui n'exclut pas, à un moment donné, sur la partie connaissance, une vérification de connaissances. Madame.
Oui. Comme quelques remarques, simplement. Donc, comme M. Jourdain, nous pratiquions l'EMC sans le savoir. Et nous sommes désormais en rivalité, en rivalité avec les réseaux sociaux. Vous avez justement dit que l'éducation relève de la famille, l'instruction de l'État, de nous enseignants. Mais hélas, il y a également la rue, puis les réseaux sociaux qui éduquent. Et là, nous passons des temps et des heures à construire ces valeurs, à les incarner. Et puis, il suffit qu'il y ait une vidéo sur un réseau social pour que tout s'effondre. Et en ça, on a quelques difficultés, réticences. Enfin, pas réticences, mais il y a de quoi de temps en temps baisser les bras, puisqu'on fait des efforts à chaque heure de cours pour vraiment saisir une occasion pour parler de tolérance, pour parler de liberté, d'égalité, d'équité. On le fait tout ça, je pense, déjà avant ces nouveaux programmes, mais voilà, les réseaux sociaux, c'est plus la famille simplement qui est quelquefois qui présente des intérêts divergents aux nôtres. C'est vraiment ces réseaux sociaux qui sont un bien, mais qui pour les jeunes, petits, les adolescents, constituent une source avec laquelle il est difficile de rivaliser, d'être entendu. Voilà.
Non, mais je suis parti vraiment tout à fait conscient de cette difficulté majeure. Je tenais simplement à rappeler que la famille, qu'on n'avait pas à s'opposer, mais à construire avec la famille. Par contre, par rapport aux réseaux sociaux, je n'ai pas la réponse miracle. Je vous dis simplement que si nous ne faisons rien, ce sera vraiment pire. Ce sera vraiment pire. Donc, il faut saisir toutes les opportunités, même éventuellement les réseaux sociaux, à un moment donné, pour poser les choses très, très simplement sans les imposer. Notre force, les réseaux sociaux imposent. C'est une manière d'imposition, c'est une manière. Et les enfants et les adolescents réagissent aux réseaux sociaux comme ils réagissent à leurs jeux vidéo. Nous sommes sur le registre du virtuel. Notre seule force à l'école, c'est d'être sur le registre du réel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on gagne, hein. J'essaie d'être optimiste parce que j'y crois encore un peu, au moins, mais j'ai envie que, à côté de nous, il y a, pour certains jeunes, dans certains milieux, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre et une société où on n'arrivera pas à adhérer et faire vivre quelques valeurs. Alors, bon, c'est vrai que j'ai été trop optimiste, j'en ai mis trop, mais allez, juste quelques-unes pour vivre ensemble. Nous ne pourrons plus vivre dans cette société, donc c'est pas la peine. Hein. On peut arriver à une vision cauchemardesque des choses. Mais il faut que nous soyons sûrs des valeurs qu'on défend. Il faut pas que nous nous arrêtions à l'écume des choses, à des choses extérieures. Je vous donne un exemple vécu tout à fait récemment. Il se trouve que pendant les vacances de la Toussaint, je suis allé passer 4 jours à Londres. Pays vraiment étranger pour un Français d'une république laïque, hein, et démocratique. C'est vraiment un pays étranger. Et pour vous donner deux images qui m'ont fait réfléchir, ce n'est pas une solution miracle, qui m'ont fait réfléchir. Je débarque vraiment du train, je prends le métro, et devant moi, une femme totalement voilée. Totalement, ce qui est tout à fait interdit en France. Et un monsieur de la City à Londres qui est assis. Le monsieur se lève pour que la dame s'assoie. Première image de Londres. Tête galerie, deuxième image de Londres. la dame qui me vend des billets est voilée. Et ça ne choque personne que le fiefé touriste que je suis, qui n'a pas été choqué, mais qui sait. Vous avez un réflexe quand vous arrivez de France?
Oui.
Alors, jusqu'où la tolérance doit-elle aller dans une... C'est une question à poser, mais vraiment à interroger et pas avoir d'a priori absolu, parce qu'il se trouve, je pourrais rajouter que cette jeune femme voilée qui vendait qui était employée de la tête galerie, donc tout à fait nationale, était voilée, mais par ailleurs portait une jupe. Et c'était pas du tout, ça ne dérangeait personne. Je veux dire, ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà de symboles, d'exemples, allons sur des choses vraies, sur des choses de fond. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que l'organisation sociale du Royaume-Uni est idéale. Simplement, elle est différente et le fait de les confronter permet peut-être de dire qu'au-delà d'apparence, il y a vraiment des questions de fond qui se posent. Et c'est peut-être là-dessus qu'avec nos élèves et nos adolescents, on peut faire. Dernier élément de réponse très très court, pensez au parcours. Pensez au parcours. On ne gagnera que si on construit les choses du début de la scolarité, vous avez bien fait de dire, de l'école maternelle jusqu'au bout. C'est peut-être par la répétition qu'un certain nombre d'élèves qui nous sont confiés adhéreront à ces valeurs. Moi, je ne suis pas naïf, pas tous les élèves, et je sais que par ailleurs, c'est difficile. Et l'autre point, ce qui vous protège, c'est quand même, malgré toute la critique qu'on peut en faire, le fait d'appartenir à un système éducatif qui vous protège, ce sont les programmes. Vous êtes légitime à enseigner les programmes. Vous êtes légitime à aller visiter une église. Vous êtes légitime à enseigner la sexualité en sciences, quand c'est dans les programmes. Pour voir ça, ça ne se discute pas. Quand Ferry écrivait aux instits à l'époque, on détourne souvent quand il disait que l'instituteur devait se poser la question de savoir s'il ne choquait pas les familles, ça ne portait pas sur l'ensemble de l'enseignement. La lettre aux instituteurs porte sur l'enseignement moral, pas sur le programme de sciences de l'époque de Ferry. Là, la question ne se pose pas. C'est sur l'enseignement moral. C'est déjà suffisamment important, mais quand même, sur le reste, vous êtes protégé par rapport à l'école scientologique américaine? Non. Non, non, nos programmes sont très clairs là-dessus. Mais c'est vrai que sur l'enseignement moral, ce n'est pas facile et que on est dans une société où l'éducation, et vous l'avez justement dit, pratiquée bien au-delà de la famille et bien au-delà de la rue. Encore dans la rue, on arrivait à faire à peu près. Là, les réseaux sociaux, même pour vous enseignants, entre vous, ils ne vous protègent pas, les réseaux sociaux. Je sais, moi j'ai encore des collègues profs qui me disent que sur certains sujets d'actualité, les SCUD volent bas dans les réseaux sociaux, social traître, etc. Ça dépasse largement les petites différences au sein des profs. Mais il ne faut pas baisser les bras, pour autant. Voilà, je crois qu'on a même un peu dépassé le temps. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation.